Woofing, partagez le quotidien des fermes bio avec Jean-Jacques Fasquel.
Ok, merci de votre accueil. Donc, je vais vous faire une petite présentation du woofing en général. Bien sûr, je ne vais pas vous raconter tout le bouquin. En tout cas, je vais commenter les généralités, l'historique du woofing. Et puis ensuite, on fera une grande partie de questions-réponses parce que je pense que c'est en général ce qui vous intéresse le plus. Puisque le woofing, tout le monde a envie d'y aller, mais il y a peut-être quelques appréhensions. Donc, mon but, c'est bien sûr de lever ces appréhensions et de vous donner envie d'y aller aussi. Mais avant de parler du woofing, je vais vous parler un peu de moi, non pas parce que j'ai le bourrichon, mais parce qu'il y a un lien avec ce que je suis et ce que j'ai été. Alors aujourd'hui, mon métier principal, je suis maître composteur. J'accompagne notamment les collectivités et ses habitants dans la pratique du compostage. Donc je fais des formations, de l'accompagnement, de mise en place de projets. Je suis toujours présenté comme le pionnier du compost en pied d'immeuble à Paris, que j'ai démarré il y a 10 ans. Je fais aussi beaucoup de jardinage. J'ai créé il y a aussi 10 ans un jardin partagé dans Paris qui est devenu un petit laboratoire d'agriculture urbaine avec bien sûr du compost, du jardin, des poules, des ruches et puis dernièrement une mare. Tout ça en plein 12e arrondissement. Alors tout est petit chez nous bien sûr parce qu'on a moins de place que quand on est plus à la campagne ou quand on a plus de place. Paris est quand même plus dense que Lyon, donc j'imagine qu'il y a quand même un petit peu plus de place à Lyon. Donc j'accompagne aussi maintenant la création et l'animation de jardins partagés. Je suis aussi apiculteur amateur. Alors, on en reparlera parce que j'ai aussi appris une partie de ce que je sais en apiculture via le woofing. Et puis je suis également formé à la permaculture. Voilà un peu pour vous dire ce que je fais aujourd'hui. Un peu d'écriture. Donc effectivement, ce bouquin là, Carnet de woofing, qui est sorti aux éditions Terre Vivante au mois de novembre. Mais 2018 a été mon année d'écriture puisque j'ai aussi sorti chez Rustica un autre bouquin qui s'appelle Composter en ville, avec toujours un parti pris, hein, c'est d'expliquer simplement les choses. Un peu le compost, c'est un peu pareil, on se fait toute une idée du compost, c'est quand même des choses très très simples. Donc c'est le parti pris dans tout ce que j'écris. Donc voilà sur ce que je fais aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est de revenir à ce que je faisais avant. Puisque moi je suis pas né écolo, je n'ai pas de souci à le dire, hein, c'est une vraie conversion, une vraie révélation. J'ai fait une école de commerce comme beaucoup, que je critique, dont je critique beaucoup de choses bien sûr aujourd'hui. Néanmoins j'ai eu un parcours atypique puisque j'ai toujours travaillé dans mes secteurs de passion. Ma première passion c'était la musique, donc mon premier métier c'était d'être organisateur de spectacles. Je suis beaucoup venu d'ailleurs à Lyon puisque je travaillais pour Arachné Concert qui est quand même, enfin qui était en tout cas en son temps un des gros producteurs de concerts de Lyon. J'ai une grande histoire aussi avec Lyon parce qu'ensuite je suis revenu à Lyon pour, enfin je me suis installé à Lyon pour être le directeur adjoint du multiplex Pathé au moment celui de la rue de la République quand il s'est transformé en multiplex. Et puis, bon, je ne fais pas tout le CV, mais pour vous montrer un petit peu dans quel univers je pouvais frayer. Et puis, j'ai fini directeur de Bercy Village à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des anciens chais de stockage de vin qui ont été transformés en centre commercial à ciel ouvert. Donc, j'ai fini garant du temple de la consommation et grand chef de la boboitude, dont j'étais un éminent représentant à ce moment-là. Mais je lisais, enfin je suis quelqu'un de très rationnel et j'ai lu beaucoup de choses qui m'ont interpellé. Des choses à l'époque, aujourd'hui on parle beaucoup de réchauffement climatique, mais là je parle des années 2000, donc c'était pas du tout popularisé. Donc des choses sur le réchauffement climatique, mais aussi des choses sur le pic pétrolier. Ça, le pic pétrolier, ça m'a vraiment ébranlé dans mes certitudes. Et puis aussi des notions sur l'empreinte écologique. Enfin bref, tout ce qui est un peu évident pour vous aujourd'hui, mais qui n'était pas pour moi à l'époque. Et je découpais des articles et je raconte toujours que sur mon bureau, j'avais une chemise et quand la pile a été bien haute, tous les morceaux du puzzle ont fait sens et j'ai changé de vie. Hein, j'ai eu une révélation, voilà, j'ai vu la lumière, j'ai compris que le truc qu'on m'avait vendu ne pouvait pas fonctionner. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à changer toutes des choses dans ma vie personnelle et professionnelle. Au niveau personnel, bah, j'ai commencé à m'habiller bio, à manger bio, j'ai changé de banque, je suis passé au crédit coopératif, j'ai changé de fournisseur d'électricité, je suis passé chez un ERCOP. Et puis bah, je me suis aussi posé des questions sur mes loisirs, sur mes vacances. Et au gré de mes recherches sur Internet, je suis tombé sur cette notion de woofing. Et tout de suite, bah, j'ai compris que ça allait donner du sens à y compris mes vacances. Alors, Lou Woofing, je vais vous revenir un petit peu à l'historique, puisque souvent on ne sait pas trop d'où ça vient. Lou Woofing est né en Angleterre dans les années, enfin, en 71. C'est une dame qui s'appelle Sue Coupard, qui était secrétaire d'une école d'art à Londres, qui, comme beaucoup d'entre nous, à un moment a eu envie de besoin de campagne. Et elle s'est rappelée que quand elle était plus jeune, elle allait dans une ferme de cousins. Donc voilà, elle avait cette envie-là. Elle a cherché une ferme qui pouvait l'accueillir pour retrouver un petit peu ces sensations-là. Elle a trouvé, alors peut-être parce qu'elle était dans l'univers de l'enseignement, elle a trouvé un lycée agricole dans le Sussex qui a accepté de la recevoir ponctuellement sur un week-end. Une fois qu'elle a eu cet accord-là, elle a passé une petite annonce dans Time Out. Donc pour ceux qui connaissent, Time Out, c'est un peu l'équivalent du Télérama londonien anglais. Elle a passé une petite annonce en disant, voilà, je cherche des gens pour aller passer un week-end dans une ferme bio, hein, puisque on est en 1970, c'est le développement du bio, y compris en Angleterre. Et donc, elle trouve ce lycée agricole dans lequel il y a une ferme d'exploitation, hein, comme dans tout lycée agricole, qui accepte de les recevoir. Elle reçoit 15 demandes de gens pour l'accompagner. Elle en sélectionne deux et puis se retrouve comme ça à l'automne 71 à prendre le train à Victoria Station pour partir dans le Sussex, dans cette ferme. Il passe deux jours à couper des ronces, curer des fossés. Les fermiers qui étaient un peu dubitatifs au démarrage, quand ils repartent, ils disent « vous revenez quand vous voulez ». Parce que, grosso modo, ça leur avait plu aussi à eux. Donc, on peut dire que c'est comme ça qu'a été créé le Woofing. Donc, au démarrage, ça s'appelait Working Weekend on Organic Farm. Très vite, ça s'est développé. Les gens, bien sûr, ne sont pas satisfaits de deux jours. Ils ont plutôt fait des semaines ou même plus long. Donc, ensuite, l'acronyme a changé de Working Weekend en Willing Worker on Organic Farm, hein, travailleur volontaire dans les fermes biologiques. Néanmoins, le mot « worker » a assez vite posé problème. On en va en reparler, bien évidemment. Notamment, il y avait des gens qui venaient de l'étranger, et au niveau de l'immigration, quand ils disaient qu'ils venaient pour « willing worker », ça le faisait pas trop. Alors, on est toujours, d'ailleurs, un petit peu dans cette problématique. Je regarde mon fil pour que ça soit assez logique, mais on en reparlera. On en reparlera un petit peu après de la légalité, et c'est la raison pour laquelle dans les années 2000 l'acronyme a changé et maintenant on parle de Worldwide Opportunities on Organic Farm, hein, des opportunités mondiales dans les fermes biologiques. Donc voilà un petit peu sur l'historique. Maintenant, je vais repréciser aussi la définition du woofing. Trop souvent. Et moi, le premier, je pense que j'ai dû faire l'erreur. Très souvent, on dit « le woofing, c'est tu vas bosser dans une ferme bio en contrepartie du gîte et du couvert. » C'est pas du tout l'esprit du truc. L'esprit du woofing, c'est « je viens découvrir le quotidien d'un fermier biologique, je viens apprendre, je viens partager, et surtout, je le fais librement et bénévolement. » Il n'y a aucun lien de subordination, aucune obligation de rentabilité. Quand je dis ça, ça veut dire que si le fermier un matin vous dit tu vas aller sur cette parcelle et enlever les chardons, si ce matin-là ça vous dit pas pour plein de raisons, hein, je sais pas, vous avez mal au dos, le chardon c'est pas votre truc, vous avez le droit de dire non, moi c'est pas trop le truc que je voudrais faire, propose-moi autre chose. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment, c'est pas un échange. Donc tout de suite, ça change quand même le regard. Bien évidemment, le gîte et le couvert sont offerts, mais ils sont offerts. Ils sont offerts dans l'absolu, comme ça, comme on l'offrirait à un ami qui vient vous voir, qui vient voir ce que vous faites. Il y a néanmoins un contrat moral en termes d'heures de travail. Alors on l'appelle comme on veut, hein, travail, occupation, on participe aux travaux de la ferme. Et normalement c'est 5 heures par jour, 5 jours par semaine. Hein. Alors je ne dis pas que vous ne travaillerez pas le dimanche, parce que quand on est dans l'agriculture, on vit au rythme des animaux. Je pense à ça parce que j'ai fait un moment, un séjour où il y a eu le moment de la moisson. La moisson, vous ne décidez pas. Hein. C'est le blé quand il est mûr. Bah on y va, parce qu'en plus le gars qui a la moissonneuse batteuse, là il est pris de partout, c'est pour ça que souvent il moissonne, y compris la nuit. Donc moi j'étais venu pour faire de l'apiculture, mais ce jour-là c'était la moisson, on fait la moisson. Et puis j'étais très content de passer 2 heures avec je sais plus comment il s'appelait, Marcel, là, dans sa moissonneuse batteuse, qui m'a raconté ses 50 années de moisson en Bretagne. Donc c'est ce rythme-là. Alors les 5 heures, ça peut être 3 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Il y a souvent une coupure. Hein. La sieste est assez courue chez les paysans. Je dis d'ailleurs le mot paysan exprès, hein, parce qu'il a été beaucoup dénigré, galvaudé, etc. Moi, je trouve qu'il y a une fierté dans le mot paysan. Quoi, hein. C'est pas un abruti de paysan, c'est au contraire un paysan, c'est celui qui fait vivre le pays. Il n'a rien à voir avec l'agriculture intensive, là où il y a effectivement des exploitants qui exploitent, mais là on n'est pas dans la même histoire. Alors je reviens sur la légalité, pourquoi il faut faire attention aux mots et à l'esprit, parce que en France, en 2011, la personne qui fait du woofing, on appelle ça un woofer, et celui qui reçoit, on appelle ça un hôte, H-O-T-E. Donc il y a un hôte qui a été condamné à une amende par la MSA, hein, la MSA Mutualité Sociale Agricole, 4 500 €, en considérant que c'était du travail dissimulé. Alors néanmoins, cette amende a été intéressante parce que du coup, l'association Woof France, dont je reparlerai après, a monté une pétition. Il y a eu, je crois, 50 000 signatures. Ça a généré des rendez-vous au ministère de l'Agriculture. Et aujourd'hui, notamment en 2014, dans la convention de lutte contre le travail dissimulé, il y a clairement une phrase qui dit que le woofing est une activité non présumée salariée. Donc ça, c'est la position aujourd'hui de cette convention. C'est normalement aussi la position de la MSA, puisque si vous allez sur le site de la MSA, il y a un petit onglet woofing et on dit bien que voilà, c'est dans cet esprit-là que ça se fait. Mais les directions régionales de la MSA ne sont pas toujours bien au fait, et il leur arrive encore de faire des genres de contrôles et de ne pas comprendre l'esprit du woofing. Bon, néanmoins, je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure du nombre de woofers, etc. Je pense qu'avec le temps, on va réussir à faire comprendre ça. Moi, j'ai une pratique plutôt française du woofing, mais j'en ai fait, par exemple, une fois en Californie. Et en Californie, qui est un État plutôt progressiste, hein, qui va donc faire attention à ce type de pratique, justement, de travail dissimulé, c'est un peu compliqué, hein, en Californie, parce qu'ils sont socialement plus évolués. Parfois, ils considèrent aussi que le woofing, ça peut être du travail déguisé. Alors le woofing, aujourd'hui on peut en faire dans une centaine de pays du monde, et il y a 60 pays où il y a une organisation nationale qui va grosso modo faire l'interface entre ceux qui veulent en faire et ceux qui proposent. En France, c'est le cas depuis 2007, donc l'association Woof France, beau logo. C'est un ancien woofer, David Marie, qui... quelques années précédentes avait fait notamment du woofing en Nouvelle-Zélande, et quand il est revenu, ça l'avait passionné et il s'est senti un peu investi d'une mission de rendre un petit peu à la communauté ce qu'il avait, tout le bonheur qu'il avait eu à faire du woofing, et donc il a créé cette association Woof France qui fonctionne bien, qui est c'est... Vous savez comme moi qu'il y a parfois beaucoup d'associations qui, quand elles se développent, ont des pratiques qui ne sont pas toujours super top. Là, c'est, enfin moi, pour les connaître maintenant un petit peu de l'intérieur, avoir assisté à leur assemblée générale l'année dernière, c'est vraiment des gens bien. Ça génère des recettes, hein, puisque pour adhérer, pour pouvoir consulter entre guillemets le fichier, vous allez adhérer au prix de 25 €. Donc ça peut faire un peu d'argent. Ils pourraient très bien augmenter leur salaire, etc. Non, c'est pas du tout le cas. Ils ont des réserves importantes qu'ils gardent, notamment si un jour il y avait un procès, ils pourraient comme ça aussi aider les agriculteurs éventuellement qui auraient ce souci de procès. Et puis c'est une partie des ressources aussi peut servir quand un agriculteur a un gros coup de galère, un apiculteur qui aurait perdu toutes ses ruches pour une raison X ou Y, un viticulteur qui perdrait ses vignes à cause de la grêle, ce type de choses. Donc c'est voilà, vraiment une association qui est sympa. Ils ont, alors, vous payez votre adhésion, vous accédez de fait à un site internet qui est super bien fait. Ils travaillent avec un développeur vraiment top. Puis moi, j'ai commencé en 2011, hein, donc j'ai vu ce que c'était en 2011 et j'ai vu ce que c'est maintenant. Franchement, ils n'ont pas à rougir au niveau technologie par rapport à ce qu'on peut trouver par ailleurs. Alors, si vous n'êtes pas du tout féru d'informatique, enfin, si vous n'avez pas Internet, ce qui peut arriver hein, encore maintenant, vous pouvez aussi, alors c'est un petit peu plus cher parce qu'il faut éditer le bouquin, vous pouvez éventuellement recevoir chez vous un listing papier avec la présentation de toutes les fermes. Alors, le site, il est bien fait parce que pour chaque ferme, vous allez avoir quelques photos. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Moi, au début, ce que je raconte dans le bouquin, la première fois que j'ai fait du woofing, il n'y avait pas de photos sur le site internet. Et puis, quand il n'y a pas de photos, on se projette, on imagine, etc. Et je raconte que le premier chez qui j'ai été, il s'appelle... je connais que lui. Ça, c'est la vieillesse. Louis de la ferme de Toucane. Donc j'avais lu Louis, et puis je sais pas, dans la description, moi je m'étais imaginé un petit papy, je voyais la petite veste bleue, vous voyez, la veste de plutôt d'ouvrier, un petit papy limite à la retraite, etc. Donc je m'étais dit, ouais, ça va être sympa, etc. Et puis quand je suis arrivé, c'était un quadra super grand, dynamique, etc. Mais voilà, donc bon, aujourd'hui, vous n'avez pas la photo de l'hôte, mais vous avez quand même des photos du lieu, vous avez une description. Alors après, la personne, elle met ce qu'elle veut, mais c'est important de bien le lire parce que tout de suite, vous allez sentir si le lieu va vous plaire ou pas. Hein, parce qu'on est quand même des humains, hein, donc vous pouvez très bien tomber à un endroit où il y a des gens avec qui on n'a pas d'affinité. Et au travers de cette description, vous pouvez déjà sentir un petit peu l'esprit, parce que souvent, on prend un peu de temps pour écrire cette présentation. Alors une photo, des descriptions, et puis ensuite c'est maintenant ce qui est super bien fait, c'est qu'il y a aussi des filtres géographiques, hein, donc du style vous ne jurez que par la Bretagne, vous allez pouvoir choisir la Bretagne. Activité, hein, peut-être que je discutais avec quelqu'un tout à l'heure qui me disait moi oui je veux faire aromatique, hein, plante aromatique, donc vous pouvez choisir aromatique. Si vous êtes plutôt fromage, hop, tapez fromage, et donc ça vous fait la sélection. Il y a d'autres filtres complémentaires, je ne m'en souviens pas de tous, mais il y a aussi le type d'hébergement. Est-ce que vous serez hébergé dans une chambre chez l'habitant, dans une yourte, dans une caravane, ou simplement il faut amener votre tente, ce qui peut aussi arriver. Bon bref, vous faites votre petite sélection, vous regardez les trucs, et puis vous sélectionnez 4-5 lieux. Je dis 4-5 parce que si vous en choisissez qu'un, peut-être que la personne ne va pas pouvoir vous accueillir au moment où vous allez venir. Donc il vaut mieux élargir un petit peu votre panel. Vous allez envoyer un petit mail ou téléphoner. Après, ça dépend de comment vous voulez faire. Moi, personnellement, je préfère envoyer d'abord un mail parce que je trouve que c'est moins intrusif. Mais dans la population des hôtes, il y a aussi des gens qui ne sont pas réfractaires à Internet parce qu'ils sont... Il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Hein. Ils sont quand même, en général, super modernes, entre guillemets, sur plein de choses. Mais il y en a qui n'aiment pas, Internet, donc qui préfèrent... le téléphone, donc à vous de voir. Ça sera de toute façon pas mal à un moment de téléphoner pour aussi avoir entendre la voix de la personne. Hein. Là aussi, vous sentez des choses. Et puis, donc, à voir si les disponibilités correspondent entre l'offre et la demande. Et puis, hop, on va vous dire, voilà, tu peux venir de telle date à telle date. Alors, bien sûr, vous ne vous y prenez pas la veille pour le lendemain. Hein. Notamment si vous partez l'été, c'est quand même le moment où il y a un peu plus de demandes, donc c'est pas mal d'anticiper. Donc ensuite, vous allez arriver sur place, et là, un petit message sur la posture à adopter, c'est l'humilité. Hein, vous arrivez, n'arrivez pas comme un chien dans un jeu de quilles, parce que vous allez être complètement dans l'intimité du paysan. Vous allez vivre avec lui du soir au matin. Si notamment la chambre par exemple est carrément chez lui, ce qui est quand même assez souvent le cas, vous allez vivre ses joies, ses peines. Hein, s'il y a une fête, vous allez être invité à la fête, mais s'il y a un enterrement, peut-être que vous allez vivre aussi ce truc-là. S'il y a un problème dans le couple à ce moment-là, vous allez le vivre aussi. Grosso modo, vous accueillez quelqu'un chez vous, vous allez être avec quelqu'un pratiquement 24 heures sur 24, même si vous travaillez que 5 heures par jour, Bien sûr que vous pourrez aller faire du tourisme si vous voulez pendant ce temps-là, mais certaines personnes comme moi préfèrent rester parce que pour humer un peu cet esprit du quotidien de la ferme bio. Donc voilà, une position d'humilité qui est super enrichissante, cette position-là, parce que je vois dans l'assistance qu'il y a des très jeunes. C'est une position qu'on a quand on est plus jeune, parce que quand on apprend un métier, par exemple, qu'est-ce qu'on fait, notamment dans l'artisanat ou l'agriculture, c'est je regarde, je reproduis, j'essaie de pas me tromper. Et moi, qui suis un petit peu plus vieux, parce que j'ai 54 ans, cette position de me remettre en position d'apprenant me donne de la jeunesse, me donne de l'énergie, parce que c'est très agréable d'apprendre, de ne pas rester dans ses certitudes. Donc, de l'ouverture, de l'humilité, de la bonne volonté, bien évidemment, ce qui n'empêche pas de garder cet esprit critique du candide, mais pas l'esprit critique en disant oh, « putain, t'es complètement nul, là, pourquoi tu fais ça, c'est n'importe quoi ?» Non, poser des petites questions en disant « mais pourquoi tu fais ça comme ça ?» Voilà. Et ils sont très avides d'ailleurs de ce retour d'expérience, parce qu'eux ont la tête dans le guidon, enfin vous savez très bien quand on est dans le quotidien, et donc un regard extérieur comme ça, si vous n'êtes pas hautain et si voilà, s'il y a de la bienveillance dans vos remarques, au contraire ils vont adorer ça. Donc voilà, on est arrivé sur place. Maintenant je vais juste vous faire peut-être un peu une petite typologie, me s'amuser à faire une typologie aussi bien des hôtes que des woofers. Alors, les hôtes, c'est assez standard. Il y a, aujourd'hui, chez Woof France, il y a 1800 hôtes. Donc, il y a de quoi s'amuser quand même. Ce sont des hôtes qui sont assez fidèles au woofing, puisque 70% renouvellent leur adhésion chaque année. Il y en a partout. Bon, il y en a 65% au sud de la Loire, donc, mais parce que, à mon avis, il fait meilleur, donc peut-être plus de production agricole dans le sud. Et eux, leur motivation, elle est claire, c'est ouvrir leur ferme. Il y a un côté je veux montrer ce que je fais, côté pédagogique. Ils sont souvent militants, ils sont souvent Terre de Liens, Confédération Paysanne, etc. Donc accueillir, montrer ce qu'ils font, accueillir, voilà, recevoir des gens. Ils sont dans ce truc de partage. En plus, souvent, ils sont un peu scotchés chez eux. Quand on est éleveur notamment, ou quand on fait du fromage, on peut pas partir en vacances non plus 5 fois par an. Même si, à nouveau, dans le bio, ça réfléchit un petit peu et ils savent s'organiser pour quand même partir quand même de temps en temps. Et puis, ils aiment bien aussi transmettre. Donc ça, c'est les grandes valeurs des hôtes. Les woofers, eux, donc l'année dernière, ils étaient 13 500. Ça fait un ratio de 1 pour 8. Ils sont au contraire plutôt infidèles. Souvent, c'est une expérience, puisqu'il n'y a que 10% qui renouvellent. Donc, il y a les gros vicieux comme moi là, qui en font tous les ans. Mais souvent, c'est un peu une expérience qu'on ne reproduit pas obligatoirement tout le temps. Après, voilà, chacun ses envies. C'est plutôt jeune, puisque 75% ont moins de 35 ans et 40% ont moins de 25 ans. Mais il y a des vieux. Il y a les plus vieux, puisque vous voyez, moi, 54 ans. Et puis, a priori, le plus vieux, il aurait 82 ans. Donc, il n'y a pas d'âge pour faire du woofing. Alors, dans les profils que moi j'ai identifiés, alors pour faire ça, bien sûr, j'ai rencontré d'autres woofers en faisant du woofing, et puis j'ai regardé aussi les profils des woofers, puisqu'on peut aussi sur le site regarder les profils des woofers. J'ai identifié donc 6 profils. Premièrement, c'est l'étudiant étranger. Donc, lui, il vient en France pour améliorer son français. Ça lui fait des vacances pas chères. Faut pas le nier, c'est vrai que, mis à part le transport, vous êtes nourri, logé et même blanchi, parce que quand vous restez un moment, bien sûr, vous allez faire votre lessive sur place. L'étudiant français, lui, il a souvent fini ses études, puis il a besoin de respirer un petit peu, il se pose plein de questions, normal, vu ce qui se passe. Donc c'est un peu une respiration, une ouverture sur le futur. Troisième profil, l'écolo curieux. C'est peut-être là-dedans que moi que j'étais, un écolo qui a envie de comprendre comment on fabrique la nourriture qu'il veut acheter tous les jours. Comprendre aussi l'économie de ce truc-là. Moi, c'était vraiment le truc qui m'intéressait, quoi. Aujourd'hui, je sais pourquoi le bio, ça coûte plus cher. Quand vous avez passé une après-midi à désherber les courgettes à quatre pattes, vous comprenez que c'est une agriculture qui demande un petit peu plus de main-d'œuvre et que c'est pas toujours facile. Ensuite, la plus grosse catégorie aujourd'hui, c'est sûrement les futurs paysans. Donc là, on a aussi bien celui qui a fait un BPREA, un brevet professionnel d'exploitant agricole, mais à qui on n'a pas parlé beaucoup de bio, donc qui veut relativiser sa pratique. On a même des gens qui font des études plus supérieures, type agro-paritech, hein, ingénieur agronome, à qui on a vendu quand même beaucoup les gros trucs, quoi. Et lui, il est attiré par le petit, le small is beautiful. Donc il vient comme ça un peu relativiser son enseignement. Et puis on a aussi de l'autodidacte complet qui vient se faire un parcours de formation. Il va faire 4-5 fermes dans le domaine dans lequel il veut se lancer. Et ça, c'est aussi super intéressant. Bon, on le fait normalement par des stages hein, quand on se forme dans les filières traditionnelles. Mais là, on a aussi des pratiques éventuellement un peu plus novatrices, différentes. Voilà. Donc aujourd'hui, les retours de WooFrance nous disent qu'il y a une grosse demande sur cette partie-là. Cinquième typologie, le routard, hein, la personne qui est beaucoup, par exemple, en camion ou même en stop, et puis qui va au gré des envies, ils entendent parler d'un endroit sympa, ils y vont, etc. Et puis, c'est carrément un type de vie. Et puis le dernier, c'est ce que j'appelle moi le woofing thérapeutique. Donc c'est la personne qui a vécu une séparation, une perte d'emploi, un burn-out, et qui a besoin de se raccrocher à un truc. Et le lien à la terre, le bon sens paysan va lui faire du bien. Donc ça fait partie aussi un petit peu des typologies qu'on peut trouver. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu un panorama de comment j'y suis arrivé, de ce qu'est le woofing, son historique, un peu sa typologie. Donc maintenant, je pense que le plus important, c'est qu'éventuellement vous posiez des questions, parce que j'imagine que vous en avez. En tout cas, moi, avant de me lancer, j'en avais plein. Alors, donc, très bonne question. Sur le papier, un enfant ne peut pas travailler. Hein, voilà, il faut avoir 18 ans pour travailler. Pour mettre la main à la pâte. Après, clairement, sur le site du Bung France, vous avez un filtre accueil enfant. Pourquoi ? Parce que peut-être que déjà les autres, ils ont des enfants et qu'ils vont être très contents d'avoir des petits copains pour leurs enfants. Et puis, sans qu'ils travaillent, ils peuvent très bien vous accompagner, s'amuser autour, etc. Mais voilà. Après, il y a c'est la règle. Je pense pas qu'il va y avoir un contrôleur de la MSA qui va aller traîner derrière pour voir si l'enfant a cueilli une courgette ou pas. Mais voilà, je vous donne la règle. Hein, on est obligé de parler de règles officielles. Mais voilà, moi je connais des gens qui l'ont fait avec des enfants et qui ont beaucoup aimé. Quoi. C'est,
Je pense qu'au niveau éducatif, ça peut être très, très intéressant.
Tout à fait. Après, si vous partez toute seule avec un enfant... c'est une chose. Si vous partez en couple, je pense que ça peut valoir le coup qu'une journée, c'est l'un du couple qui bosse et puis le lendemain, l'autre, pour qu'il y ait quand même quelqu'un qui s'occupe de son enfant, s'il ne peut pas jouer avec les enfants du fermier.
C'est possible.
Tout est possible pour peu que vous l'ayez vu au préalable, voilà, mais vous n'arrivez pas... comme ça, mais ça, tout ça se prépare effectivement. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser un petit point à ceux qui partent en couple. Si vous partez en couple, ce que je peux comprendre, hein, bien évidemment, ne soyez pas trop fusionnel. Vous êtes là pour partager, quoi. Il ne faut pas que cette fusion vous casse la découverte que. Je dis ça parce que je l'ai un peu vu. L'un des premiers woofing que j'avais fait, voilà, il y avait un couple, ils étaient toujours ensemble. Voilà, je pense qu'il faut savoir casser, sinon on perd. Voilà, c'est pas des vacances en couple, quoi. Hein, c'est deux personnes qui vont vivre une aventure de woofing. Oui. Très bonne question. Alors, moi, je recommande dans mon bouquin un minimum de 15 jours, mais vous verrez, tous mes récits sont sur une semaine, parce que moi, j'avais ces contingences-là. Mais bon, après je vais pas vendre mon truc. Moi j'estime que je suis super ouvert, etc., et que au bout d'une journée je suis super intégré, etc. Mais voilà, ça demande quand même pour certains un certain temps d'adaptation, même pour l'hôte. Il y a des hôtes qui refusent d'ailleurs une semaine. Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils passent du temps quand même à vous expliquer, vous montrer le geste, etc. Donc pour eux, sans, le mot est très très laid, hein, de rentabilité. Mais quand même, c'est vrai que si toutes les semaines, il est obligé de réexpliquer, ça peut être un peu laborieux parfois pour eux. Ça peut être plus long. Il y a des gens qui font 3 mois au même endroit, des gens qui reviennent régulièrement au même endroit. Bien sûr. Il y a des hôtes qui disent, ben, au bout de la première semaine, on fait un point. Parce que, bien sûr. Alors, j'ai oublié d'ailleurs de faire mon petit topo sur les quand ça se passe mal. Les deux, mon capitaine, hein, comment se débarrasse du woofer ou comment le woofer, c'est plutôt d'ailleurs l'inverse hein, en général. Hein. Donc, que dire là-dessus ? Moi, je ne suis pas un bisounours, je ne vais pas vous dire que toutes 100% des expériences se passent bien. Moi les miennes se sont à une exception près, donc vous voyez, 10%, hein. J'en ai fait une dizaine, se sont bien passées. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on parle plus des mauvaises expériences du woofing. Je pense tout simplement parce qu'avec les réseaux sociaux, etc., ben, voilà, on entend plus parler de choses. Mais bon, il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas parce qu'on est dans le bio qu'il n'y a pas des gougnafiers et des gens qui vont faire n'importe quoi et exagérer. Donc ça arrive, hein, des fermiers, qui vont, des paysans qui vont tirer trop sous la corde en termes d'horaire, hein, du style 8 heures par jour, 7 jours sur 7. Je caricature un peu, hein, mais... ou faire des choses trop physiques, trop répétitives, des endroits où vous verrez pratiquement jamais le fermier, quoi. Grosso modo, le matin, vous voyez, il vous donne le boulot à faire et puis il mange pas, vous mangez même pas avec lui, etc. quoi. Voilà, donc ça peut arriver. À nouveau, je l'ai dit, hein, pas de lien de subordination, bénévole, libre. Donc, si ça se passe mal, déjà, il faut en parler. Hein, dire bah non, attends, moi ça me correspond pas. Puis si on voit que ça marche pas, il faut partir. Alors, le Woof France peut faire un peu l'interface, hein, peut faire une médiation s'il y a besoin. Mais moi, je vous assure que si je le sens pas, je vais pas rester dans. Enfin, je suis là pour prendre du plaisir, donc je vais pas rester dans un truc qui me fait souffrir. Donc, je peux vous parler deux mots de ma seule expérience mauvaise qui était aux États-Unis. Sur le papier, c'était génial. J'avais fait, je pense, un peu avant ma formation en permaculture. Donc, je trouve une petite ferme en permaculture. C'était le rêve. Quoi. Je me suis dit, je vais m'éclater. Enfin, la description, c'était top. Quand je suis arrivé, c'est ma femme qui m'a laissé en voiture parce qu'elle continuait avec les enfants les vacances traditionnelles. Quand ils m'ont laissé sur place, ils m'ont dit « T'es sûr que tu veux rester là ?» Parce qu'il y avait un mec qui était complètement stone, là, enfin, en train de dormir dans l'herbe. La maison était un peu, je sais pas, aux quatre vents. Et puis, je vais voir le fermier. Alors, il était autour d'un moteur. Il me dit « Ouais, je travaille sur la free energy. » Je dis « Ok, ça va. » Et puis, deuxième question qu'il me pose, il me dit « Est-ce que tu crois aux aliens ?» Je dis « Pas trop. » Il me dit « Mais si, je te montrerai une vidéo ce soir. » Bon, j'ai dit déjà... pas terrible quoi. Après on est remonté dans la ferme, il me dit bon, on va aller chercher à manger. Alors chacun, on était, je sais pas, il y avait une dizaine de personnes, donc je vous dis, alors à l'intérieur de la ferme il y en avait autant de pas, il y avait plein de mecs complètement défoncés, comme je dis dans le bouquin, aussi défoncés que les fauteuils dans lesquels ils étaient assis. Et puis donc pour manger, fallait aller, t'allais dans le champ, puis tu prenais ce que tu voulais, puis tu te le cuisinais tout seul quoi. Ça, c'est pas du tout l'esprit du woofing. Hein. L'un des bons souvenirs du woofing, c'est souvent ce qu'on mange, quoi. Parce que vous avez des bons produits. Le paysan, en général, il aime cuisiner, etc. Donc là, c'était n'importe quoi. Le soir, en plus, il y a des woofers français qui sont arrivés, enfin, qui étaient là depuis 15 jours, complètement scotchés, qui m'ont expliqué que, grosso modo, il n'allait pas se passer grand-chose pendant mon séjour. Je suis reparti le lendemain matin, en stop. C'est pas évident, hein, parce que j'avais pas d'autres points de chute, mais il faut savoir, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures, quoi. Voilà, mais je veux pas vous faire peur, hein, mais voilà, ça existe, c'est rare, mais si ça existe, vous n'êtes pas lié, donc faut. Oui, alors tout à fait. Alors elle gère l'inscription. Tout à fait. Et est-ce que l'association Woof France a un genre de droit de regard? Donc l'association Woof France, normalement, à l'adhésion de Lotte, elle va lui poser quand même des questions. Elle fait, j'ai oublié de dire, oui, on signe aussi une charte. Hein. Donc le Lotte signe une charte. Et le woofer, d'ailleurs, en arrivant, normalement, doit signer aussi une charte, hein, avec des engagements qui correspondent aux valeurs que j'ai exposées. Et quand il y a des problèmes comme ça, le Woof France fait une enquête. Hein, c'est-à-dire que vous avez vécu un truc qui n'allait pas, bien sûr, vous le dites au Woof France. Enfin, je pense que c'est bien de le faire. Hein. Ce n'est pas de la délation, c'est simplement protéger l'esprit du woofing. Et donc, elle va faire une enquête. Elle va faire une enquête d'enquête contradictoire. Elle va demander un peu le son de cloche de Lotte. Et puis, elle pourra mettre ce genre d'avertissement, et quitte à même exclure. Donc, il y a des hôtes qui sont exclus. Et moi, ce qui est bizarre, ce qui est rigolo, en tout cas c'est une anecdote, j'ai été dans un endroit où après mon séjour, le Woof France m'a contacté en disant on a eu une plainte dans cette ferme-là, qu'est-ce que tu en penses ? Donc moi, j'ai donné mon retour d'expérience. Je trouvais qu'effectivement, l'endroit où j'étais, la dame avait tendance à tirer un peu sur la corde des horaires. Alors, c'est pas un contrat, c'est une charte. Hein, c'est une charte d'engagement que vous signez en arrivant. Alors, je la connais pas par cœur, mais bon, je l'ai mise dans le bouquin. Ouais, bon, c'est écrit trop petit. Hein. J'ai plus les yeux pour. Mais voilà, enfin, vous voyez, grosso modo, j'ai des lunettes de vue, hein, mais c'est pas les mêmes. J'ai pas des doubles foyers, c'est pour ça. Autant dire, vous pourrez lire le livre, hein, même les plus anciens. Enfin, vous voyez, ça va être effectivement la notion de bénévolat, de libre, etc., de partage. Alors oui, est-ce que Woof France est incité au retour d'expérience ? Alors maintenant, il y a un très bon retour d'expérience. C'est que sur le site internet, les woofers peuvent faire un retour écrit directement en dessous de la fiche. Donc ça, quand vous choisissez votre ferme, ça c'est vraiment c'est nouveau, ça fait quoi ? 6 mois, 1 an. Donc ça c'est top, parce que si vous avez un endroit où ça va pas, vous allez tout de suite avoir un ou deux commentaires négatifs, hein. Alors, ou des commentaires très variés, hein. Très bien, qui va dire oh, c'était génial, et puis l'autre qui va dire bah non, c'était nul à chier. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que peut-être que l'autre a un caractère un peu spécial qui va peut-être fonctionner très très bien avec certains et pas du tout avec d'autres. Donc ça sera un point de vigilance. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre Woof France et Woof Monde ? En général, quand un pays se lance dans le woofing, autrefois, c'était Woof Monde qui gérait. Il y a un genre de Woof Monde qui gère les pays où il n'y a pas encore d'organisation locale. Donc, il y a obligatoirement un lien et il y a des passerelles, c'est-à-dire que grosso modo ils reprennent un peu les mêmes principes. Moi qui ai fait uniquement trois pays, mais États-Unis et France, il y a des analogies complètes sur l'esprit, etc. Et puis il y a effectivement une association Woof Monde qui chapeaute sans qu'il y ait vraiment de lien de subordination aussi là entre eux. Mais on est vraiment dans les mêmes même esprits et mêmes pratiques, quoi. Il n'y a pas un pays où ça serait 10 heures par jour et puis un autre 5 heures, quoi. Non. Oui, on s'inscrit pour chaque. Enfin, chaque pays est une association indépendante, donc on paye à chaque fois. Enfin, 25 euros pour la France, ça peut-être, je sais pas, 30 pour les États-Unis, etc. Mais en général, tu fais pas. Enfin, si, tu peux très bien dans une même année faire un parcours hein, de plein de pays, mais c'est, je pense, relativement rare. Mais ça peut, pourquoi pas, ça peut arriver. Hein. Tu peux très bien décider de faire un tour du monde en woofing, c'est tout à fait possible. Ouais. Oui, je pense qu'à l'étranger aussi, il y a des possibilités en famille, ceci par rapport à des gens que j'ai déjà rencontrés. Oui, ça s'est fait. Alors, moi, mon bouquin, bon, il est édité chez Terre Vivante, et ça tombait bien, j'ai fait majoritairement des woofings en France. Mais c'est aussi un choix de ma part, hein, parce qu'on parle toujours de l'exotisme, d'aller en voyage, ou même, pourquoi pas, de faire du woofing à l'étranger. Mais moi, ce que je réponds à ça, c'est que on a quand même la chance en France d'avoir un pays qui est incroyable en termes de richesse, variété, de production, mais aussi de paysage. L'exotisme, il est parfois au coin de la rue, hein, même dans la ville, hein, puis on ne connaît pas. Donc, on peut se régaler quand même avec tout ce qu'il y a en France. Hein. Moi, le premier woofing que j'ai fait, c'était sur l'île de Bréa. Je n'explique pas le bonheur quoi, de ramasser au croc des pommes de terre avec, en voyant la mer comme ça dans l'archipel. Quoi. Alors, non, on n'a pas de garantie. Par contre, c'est une bonne question à poser. Hein, la question, d'ailleurs, je vais peut-être faire développer là-dessus. Quand vous allez, les questions que vous allez poser, moi, je pose comme question, combien il y aura de woofers au moment où j'y suis ? À vous écouter, j'ai l'impression que vous voudriez qu'il y ait d'autres woofers. Voilà, donc, je comprends. Les plus jeunes, souvent, ils veulent qu'il y ait du woofer parce qu'ils se disent, bah, ça va être un peu la teuf, etc. Mais ce qui est bien, hein. Moi, par contre, quand je vais à un endroit, si on me dit qu'il va y avoir 5 woofers, j'y vais pas. Pourquoi ? Parce que je vais avoir une relation super exclusive avec le fermier. Quoi. Je vais son petit chien qui le suit partout. Et moi, je pose des questions en permanence. Voilà, je veux tout apprendre, tout comprendre. Donc attention à cette dilution-là. Attention aussi à ne pas vous retrouver dans une usine à woofers. Là, dès qu'il y a 10 woofers, je pense que je ne suis pas certain qu'on soit vraiment dans l'esprit woofing. Quoi. Il y a même des endroits où, par exemple, vous ne mangez pas avec l'hôte. C'est-à-dire qu'il y a un baraquement pour les woofers. Beaucoup d'ailleurs aux États-Unis, hein, j'ai vu ça. Parce que aussi c'est peut-être plus grand en termes de surface. Donc là pour moi c'est plus du tout l'esprit du truc. Quoi. Dormir à part, pourquoi pas ? Parce que ça vous donne quand même un peu d'intimité. Au début moi je voulais vraiment avoir la chambre chez l'habitant. Et puis j'ai beaucoup aimé là, ma petite caravane ou mon petit mobilhome. Voilà, ça donne aussi un peu de respiration. Si l'après-midi... vous bossez pas, vous voulez, je sais pas, bouquiner, dormir, ça peut être aussi un moment de respiration sympathique. Mais effectivement, attention quand même. Après, le monde, ça peut être aussi, je comprends que ça puisse être une envie. Hein. J'ai discuté avec des woofers plus jeunes qui recherchent plutôt ça. Pour revenir sur l'île de Bréa, je crois qu'il y a un jour, on était une dizaine à table, mais il n'y avait pas que des woofers. Hein, il y avait des woofers, il y avait une bénévole en service civique, il y avait un ouvrier agricole, il y avait quelqu'un qui était en stage. C'était sympa, et ce qui ne m'a pas empêché d'être un peu le petit chien-chien du fermier quand même. Alors, est-ce qu'ils ont des salariés ? Je réfléchis, moi, dans ma pratique. Non, il y avait souvent la conjointe qui était sur l'exploitation. S'il y a une fois, il y avait un ouvrier agricole, ouais. Mais qui était peut-être même juste un saisonnier d'été. Mais ça pourrait typiquement arriver. Après, on est quand même plutôt dans le woofing, sur des exploitations de petite taille. Donc, s'il y a un salarié, ça sera tout. Ou éventuellement un GAEC, vous voyez, un regroupement. Ça peut aussi arriver. J'étais à un endroit où c'était assez sympa, puisque moi, j'étais chez le... c'était un habitat pas partagé puisque chacun avait vraiment son bâtiment dont il était propriétaire, mais ils étaient tous ensemble. Moi j'étais chez le boulanger et puis il y avait un potier et puis un maraîcher. Donc du coup là c'était sympa parce que en un woofing j'ai vécu aussi trois trucs quoi. Ben, bien sûr que vous avez des grosses exploitations en bio, mais c'est du bio, hein. Oui, j'ai oublié de le dire d'ailleurs, enfin, ça me paraissait un peu évident, c'est obligatoirement du bio. Néanmoins moi quand j'ai le téléphone, je repose bien la question. Hein. Votre exploitation est bien en bio ? Parce que moi, ça ne m'intéresse pas du tout d'aller... au revoir. Ça ne m'intéresse pas du tout d'aller brasser de la chimie. Donc, du coup, c'est plutôt des petites exploitations parce que c'est un peu l'esprit de la bio quand même. Hein. Ben, on peut faire du bio dans une grosse exploitation. Bon, dès que vous faites, par exemple, un céréalier en bio... Il a obligatoirement quand même je sais pas parce que moi j'ai pas fait la seule fois où j'ai fait des céréales c'était quelqu'un qui en faisait uniquement pour les quelques bêtes qu'il avait, vous voyez, donc c'était tout petit, je sais pas, c'était quelques hectares, mais un vrai céréalier, je sais pas, j'imagine qu'il a 50-100 hectares, mais en général quand on dit paysan, un paysan ça veut bien dire petite exploitation où grosso modo on fait un peu tout tout seul quoi, et c'est ce qui donne aussi le, je trouve, l'attrait du... Voilà, la quintessence, c'est le polyculture élevage, quoi. Oui, alors oui, notamment en hiver, c'est évident que vous aurez... les plantes sont aussi au repos, donc ça pourrait être du bricolage. Mais en été aussi, hein. Mais c'est pour ça que c'est bien au téléphone de demander, donc autre question à poser, quelles seront les activités au moment où je vais venir ? Moi, je suis apiculteur amateur. J'ai fait quelques séjours en apiculture. Je pose la question parce que si vous allez, comme je crois que je l'écris dans le bouquin, si vous allez, je sais pas moi, au mois d'octobre chez un apiculteur, vous ferez pas de récolte. Hein, la récolte, elle se fait d'avril à maximum septembre. Donc peut-être que vous ferez du conditionnement de réparation de ruches, de remise en service. Mais il y a des gens qui en plus qui adorent faire du bricolage. Hein, donc il peut y avoir des chantiers bricolage. Moi ça m'est un peu arrivé, mais aux États-Unis par exemple, quand j'ai eu ma mauvaise expérience, j'ai trouvé un autre woofing à la suite. J'ai fait un peu de maraîchage. Et puis ensuite, le gars, il me disait, il voulait que je fasse des trucs chez lui ensuite. Il avait de la peinture à faire. Je dis, écoute, je suis pas venu aux États-Unis pour faire de la peinture, quoi. Tu vois, autant le maraîchage bio peut m'intéresser, mais pas la peinture. Voilà. Mais voilà, c'est une. Oui, ça peut être du bricolage. Ça peut être du bricolage, ça peut être. Bon, la cuisine, elle est partagée aussi, hein. Faire les repas. Y compris au moment du repas, vous n'êtes pas juste le pacha, quoi. Hein. Comme chez un ami, vous allez de temps en temps mettre la table. Moi, j'aime bien proposer de faire manger une ou deux fois avec un peu ce que je sais bien cuisiner. C'est du partage, quoi. C'est à mon avis surtout le cas dans les primo, les gens qui sont en train de s'installer. J'ai senti effectivement sur le site là un regain de nouveaux installés un peu permaculture. Alors attention à la permaculture, hein, parce que ça veut tout et rien dire. Mais ça aussi, il faut que vous sentiez les choses. Ça peut être des choses où, grosso modo, il y a une yourte pour tout le monde. Pour se laver, c'est à la rivière. Et donc, j'ai rien contre. Hein, mais je veux dire, faut en être conscient en arrivant. Donc, c'est pour ça que c'est bien de poser la question où je vais dormir, où est-ce que je mange, qu'est-ce qu'on va faire. Oui, c'est le propre de l'hiver. Un hiver, on répare, on construit. Moi qui ai un jardin partagé, les grosses constructions, c'est l'hiver. Hein. Là, en ce moment, dans mon immeuble, on est en train de reconstruire un nouveau poulailler. C'est le job de l'hiver. Quand on a construit notre mare, ça a été le job de l'hiver aussi. Est-ce que c'est pas obligatoirement en bio certifié, dit monsieur. Bien sûr qu'il y a certaines personnes qui sont en bio et qui ne demandent pas la labellisation. Moi, j'ai un peu du mal avec ça quand même. Je pense que... Bon, d'autant qu'il y a quand même beaucoup de départements qui maintenant financent en général la certification. Bon, après, si la personne me dit « je suis en bio et parce que c'est tout petit, etc. », je vais juger sur pièce aussi. Hein. Mais je dis ça parce que moi, quand j'achète des produits, ceux qui me disent « j'ai pas le label bio, mais je suis bio », je fais quand même gaffe en général. Hein. Parce que, bon, on les connaît, quoi. Oui, je sais bien. Y compris quand vous allez au salon Nature et Progrès. Nature et Progrès, c'est une certification, mais c'est une auto-certification. Vous voyez, c'est pas celle du ministère de l'Environnement. Donc... si la personne vous dit j'ai pas le label mais je suis en bio, je pense qu'il faut faire confiance. De toute façon, vous allez tout de suite vous en rendre compte. Hein. Vous allez aller dans le hangar, vous allez bien voir ce qui traîne. Hein. Ça tombe bien, on a bientôt fini.
Vas-y, serre-toi.
Non, mais je vais finir debout, c'est bon ça. Donc je suis perdu, la question c'était. Oui, normalement c'est... Ah oui, alors il y a d'autres systèmes de bénévolat qui existent, HelpX, Opineo, il y a deux trois sites qui sont basés un peu sur le même truc, mais où là, t'es pas du tout, c'est pas obligatoirement des fermes déjà, ça peut très bien être, il y a des systèmes comme ça un peu de bénévolat, où ça peut être pour garder des gamins, pour faire de la peinture, ça peut très bien être 8 heures par jour, quoi. Donc on n'est pas du tout dans le même esprit. Vous voyez, là, on est vraiment dans un truc, j'échange, un peu un troc entre du temps et un gîte et du couvert. Le woofing, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. C'est vraiment un esprit de « je vais découvrir » et parce que je vais découvrir, j'ai le gîte et le couvert. Mais c'est pas vraiment un échange troc, oui. Non, normalement, c'est un peu le même esprit, hein, la base de 5 heures, ouais. Moi, je connais que le woof à l'étranger. Après, les autres systèmes, la WorkX... Oui, sur le woofing, oui. Ouais.
Et au niveau des assurances,
Alors, normalement, on vous demande d'avoir une responsabilité civile, hein, pour... Et puis l'exploitant, lui, il a son assurance pour son matériel, etc. Mais il n'y a pas besoin, normalement, d'avoir une assurance spécifique. En général, tout le monde a une responsabilité civile. Oui, parce qu'on peut considérer que c'est ton assurance responsabilité civile qui va... De même que tu vas chez un ami, tu casses un vase dans le salon. Alors ça, c'est un... Il faut être conscient. Hein, faut pas que vous vous mettiez du tout la pression avec ça. Mais... Mais moi aussi, j'ai toujours peur. Alors c'est pour ça, une consigne. Moi, je préfère reposer 3 fois la question. Hein, on m'a montré le geste. Je fais, puis là, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment bien ça? Je préfère aller reposer la question, le faire revenir, même si je passe pour le bonnet de service, plutôt que de faire une bêtise. Mais après, dans ce principe-là, la personne qui vous accueille, elle vous confie une tâche, elle vous l'a expliqué, elle sait très bien que vous allez faire des conneries. Hein, il n'y a personne qui a la science infuse et qui sait obligatoirement tout de suite faire les choses. Donc vous allez un peu saloper... gâcher 2-3 trucs, mais c'est le jeu. Je pense que la personne qui vous accueille, elle prend ce risque-là. Mais c'est le cas dans tout apprentissage. Dès que quelqu'un est en stage ou apprend dans une entreprise comme ailleurs, il y a un petit risque, oui. Une dernière question. Alors le sac. Non, mais j'ai fait un paragraphe préparer son sac dans le bouquin. Parce que il faut vous dire que vous allez bosser, quoi. Donc vous prenez pas vos plus beaux pantalons, vous en prenez un beau pour sortir le soir quand le paysan vous emmènera peut-être. Parce que moi, à chaque fois que j'ai fait, même sur une semaine, il y a toujours eu un soir ou un après-midi où on a fait un truc un peu culturel. Ils sont très cultivés au sens propre et au sens figuré. J'ai fait une fois une pièce de théâtre, une fois du cirque, une fois un concert musical. Parfois, on m'a emmené faire des visites culturelles. Ils sont souvent mélomanes, ils jouent souvent des instruments. Donc, une tenue sympa, propre, on va dire, sympa pour pourquoi pas sortir un petit peu. Puis après, des habits qui craignent pas. Hein. Souvent sur place, on va vous filer une paire de bottes, etc. Mais c'est pas mal de prendre ces bottes, comme ça vous êtes sûr que vous êtes la bonne pointure, parce que vous imaginez, ils peuvent pas avoir non plus du 38 au 45, quoi. Donc un truc pour avoir chaud quand il fait froid, se protéger du soleil, prendre, je sais pas, une crème, une casquette, un chapeau. Moi, j'aime bien m'en prendre un petit pack de chocolat pour si j'ai ma petite envie de sucre, pas aller piquer obligatoirement tout le chocolat de l'autre. Et puis, pourquoi pas un petit cadeau. Moi, je sais que je suis apiculteur, j'amène un petit pot de miel. Là, je vais amener maintenant mon bouquin. Si vous savez qu'ils ont des enfants, vous pouvez amener un petit cadeau. Un peu comme quand vous allez chez quelqu'un, quoi. On aime bien, ou une bouteille de rouge, truc facile, quoi. Oui, tout de suite, ça montre la relation est différente. Et moi, les gens chez qui j'ai été, il y en a quelques-uns que j'ai reçus chez moi à Paris quand ils sont passés, ils sont venus manger ou même dormir à la maison. En une semaine, vous avez parfois une relation plus intime et forte que vous avez avec des soi-disant amis que vous connaissez depuis 10 ans. Hein. J'ai eu envie, mais je me suis dit que j'étais un peu trop vieux pour le faire. Mais oui, ça donne envie. Bien sûr, ça donne envie. Après, moi, je me lasse aussi vite des choses. Donc, je respecte aussi... un paysan, c'est quand même quelqu'un qui est quand même bloqué. Hein, même si, je l'ai dit, aujourd'hui, on peut se faire remplacer, etc. C'est quand même une certaine abnégation auquel je ne suis peut-être pas prêt. Mais après, ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai rencontré, notamment dans les plus jeunes, des gens qui savent où ils vont. Hein. Le dernier que j'ai fait, là, en boulangerie... Vous savez, souvent on dit, on entend tous les jours là, les agriculteurs, ils gagnent pas d'argent, etc. Non, quelqu'un qui est pas bête, il vit bien, il est pas stressé, il bosse pas 80, je sais plus, on entend parfois des nombres d'heures complètement fous. Voilà, il bosse, c'est parfois intense, hein, y a des moments bien sûr de coup de bourre comme partout. Mais sinon, ils savent vivre, ils savent prendre le temps. Bon, quand l'activité le demande, il y a un coup de bourre, mais ils savent prendre le temps et voilà, ils vivent simplement, mais ils vivent bien, quoi. C'est pas la misère. Le dernier, là, le jeune qui était boulanger, franchement, je sais pas, je crois qu'en 10 ans, il aura remboursé sa belle maison, vraiment une très belle maison, son investissement de boulanger, et puis éventuellement, il revendra et il fera autre chose, quoi. Donc ça aussi, ça donne envie, quoi. Ça... Oui, clairement. Après, parfois, où il pêche un peu, c'est ça, dans la commercialisation. Donc moi, c'est pour ça que j'adore aussi aller jusqu'au marché, même si normalement, sur le papier, vous n'avez pas le droit de vendre au marché. Bon, moi, chaque fois, je vends. Hein. Comme je dis dans le bouquin, je suis un très bon vendeur, un très mauvais emballeur, pareil, paraît-il. Je fais mal les paquets. Mais j'adore vendre parce que vendre un produit, vous avez participé à produire, mais c'est super facile. Vous savez que le truc, c'est un bijou, quoi. Donc, c'est... Et puis, vous avez l'impression de, je sais pas, vous donner du bonheur aux gens, quoi. Vous savez que le truc, il est super bon. Ça, c'est incroyable. Et donc, parfois, ouais, ils sont pas... Parce qu'ils n'ont pas la formation, tout simplement. Même dans un BPROA, je pense qu'on ne forme pas les gens à ce côté un peu commercial marketing. L'un des premiers woofing aussi où j'avais fait... Alors, c'était hors Woof France, parce que c'était par connaissance chez un apiculteur. Mais le gars, il n'avait même pas un autocollant sur sa bagnole et une bâche... Pour le marché. Quand je suis revenu à Paris, je suis pas le roi du graphisme, mais je lui ai fait ces trucs, je les ai même fait imprimer, il me les a payés, mais je lui ai fait imprimer à Paris, je lui ai envoyé, puis maintenant il a un autocollant sur sa voiture et une banderole, etc. quoi. Voilà, souvent ils ont même parfois des scrupules, vous savez, un peu le côté comme quoi le marketing ça serait mauvais. Mais je veux dire, le marketing de base, de donner envie et puis de vendre au bon prix. Moi, il m'est arrivé une anecdote. On sort les œufs là sur le marché, puis je vois le prix. Je dis à la fille, je dis, mais moi ça me choque, tu vends tes œufs moins cher que des œufs conventionnels au supermarché du coin. Donc tu dévalorises ton produit, quoi. C'est à minima, c'est le même prix que le bio en supermarché, mais ça serait logique que tu sois même un petit peu plus cher, puisque ton bio il est meilleur. Donc ça, parfois ils ont du mal. Mais il y en a d'autres qui, au contraire, se débrouillent très très bien. J'en ai un là qui voulait même monter un drive fermier, par exemple. Ils sont parfois dans des magasins de producteurs. J'ai vu à Alès, là, un magasin de producteurs, mais plus beau que la plus belle des Biocop que j'ai pu voir, quoi. Vous savez, c'est des magasins de producteurs où ils donnent du temps. Ça, c'est vraiment top. Il y a au moins deux, trois exploitations où j'ai été, où ils travaillaient comme ça avec des magasins de producteurs. Terminé ? Question ? Faut en profiter, on ferme après. Normalement, voilà. La réglementation, c'est normalement, vous n'avez pas le droit de vendre. Je vous l'ai dit, moi je l'ai... Mais c'est pareil pour la conjointe. Hein. Si la conjointe de l'exploitant, elle n'est pas déclarée à la MSA, hein, la Mutualité Sociale Agricole, normalement, elle n'a pas le droit. Ils le font tous. Mais voilà, je suis obligé de vous dire un peu, voilà, de vous donner la règle. Après, je pense pas qu'on va aller vous chercher la petite bête. Voilà, mais je peux pas prendre des choses qui sont, entre guillemets, pas autorisées. Bon, je vous remercie.